Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Pour m'accompagner ce soir, j'ai autour de moi Philippe Christel et Grégoire Gambier. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Patrick.
Wow. Cette fois-ci, Philippe, vous êtes là. Il n'y a pas de match de foot. Alors, vous savez qu'il y avait, quelqu'un sur Internet qui était scandalisé parce que vous n'étiez pas là. Parce qu'il pensait que vous étiez au match de foot.
Ah non, là, il y a un droit de réponse s'impose.
Non, Philippe n'était pas au match de foot, il ne pouvait pas se garer, donc il ne pouvait pas être dans le studio ce soir-là. Ce soir, un sujet un peu en dehors de l'actualité, la guerre. Peut-on comprendre la guerre? Je disais en dehors de l'actualité, mais pas tant que ça, car l'Europe vient de recevoir le prix Nobel de la paix, distinction un peu étrange. Mais je pense qu'on en reparlera au cours de cette émission, et je pense que Philippe aura son mot à dire sur ce fameux prix Nobel.
Je pense que je vais dire des choses à la mesure de l'enjeu, c'est-à-dire d'accord, à peu près rien.
Donc, cette guerre qui, au Moyen-Orient ou en Afrique, nous rappelle qu'elle n'est pas si loin. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Henninger, qui vient de sortir avec Thierry Wildman, Comprendre la guerre, histoire et notions aux éditions Tempus. Bonsoir Laurent Henninger.
Bonsoir.
Alors, pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes historien, chargé d'études à l'INSERM et membre du comité de rédaction de la revue...
L'IRSEM. Pardonnez-moi, oui, l'IRSEM.
L'IRSEM, sinon, qu'est-ce que j'ai dit?
C'est les plantes.
Ah oui, l'IRSEM. Et membre du comité de rédaction de la revue Guerre et Histoire. Alors, au début de votre livre, vous commencez par la définition de la guerre, chose qui pourrait paraître évidente. Pourtant, vous parlez plus d'opportunités. La guerre devient guerre seulement si cela arrange un État. Le 11 septembre ou la guerre d'Algérie en sont des exemples. En fait, la guerre, c'est l'État qui décide si c'en est une ou pas.
Oui, généralement, enfin selon les principes du droit de la guerre tel qu'il a été défini par les Occidentaux depuis quelques siècles. Maintenant, on peut supposer que c'est des choses changent, pas forcément bien d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Oui, enfin c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait... La guerre, c'est pas simplement la violence. C'est pas simplement l'affrontement, c'est pas simplement le conflit. Il faut qu'il y ait pas forcément des États d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est là-dessus qu'on peut s'auto-piéger en quelque sorte. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'État, est-ce que c'est une guerre? Prenez en 2006 la guerre entre Israël et le Hezbollah au sud Liban. Le Hezbollah c'est un proto-État, c'est pas encore un État véritablement. Donc si on veut appliquer bêtement une définition juridique, c'est pas une guerre. Donc je pense qu'il faut utiliser pour cela et faire rentrer dans la langue française un terme de science politique qui provient de chez les anglo-saxons et que certains penseurs français ont déjà introduit en français, c'est le terme de politie. Une politie, c'est un groupe humain avec des objectifs politiques et une communauté, en quelque sorte. Effectivement, quand il y a des polities qui s'affrontent, les polities les plus élaborées, techniquement, étant les États, les États en font partie, oui.
Vous expliquez pourtant que, par exemple, pour le 11 septembre, vous considérez, vous, enfin, c'est ce que vous dites, le 11 septembre, les Américains ont décidé que c'était une guerre et que oui, c'était peut-être quelque part une erreur de leur part.
Alors ça, que ce soit une erreur de leur part, je m'abstiendrai bien de le juger, même si j'ai ma petite idée sur cette question. Mais il y a eu un effet proclamatoire, effectivement. C'est un effet proclamatoire destiné à permettre, à partir du moment où on avait lancé le grand mot, savoir le mot guerre, ça permettait de se lancer dans un peu tout ce qu'on voulait, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, contre les citoyens américains.
Parce que la guerre, c'est l'état d'exception, enfin, puisque si pour reprendre votre formulation un petit peu juridique, effectivement, qui déclare la guerre et qui dit que c'est la guerre, c'est un État ou en tout cas une organisation structurée et donc qui désigne l'ennemi. Et qui déclare l'état d'exception. C'est un peu c'est de la science politique avant d'être de la science militaire.
C'est vrai, tout à fait. Mais sauf que c'est pas forcément l'état. Quand vous avez deux tribus qui se battent dans une guerre, même par exemple d'une guerre très ritualisée, comme ça se trouve dans les sociétés archaïques, sont des tribus qui n'ont pas de formation étatique. Oui.
Non, non, mais on essaye de sortir de notre ethnocentrisme occidental. Pour nous, l'État, ce n'est pas que l'État de droit et démocratique avec la télévision et l'urne tous les 5 ans.
En même temps, on dit que c'est la guerre, c'est l'État. Mais en fait, il y a des guerres qui ont créé des États.
Oui. La guerre crée de l'État. Mais la guerre, enfin, je dirais, c'est pas uniquement la guerre qui crée de l'État, c'est l'armée. Hein, l'expression n'est pas de moi, mais je l'utilise tout le temps, et d'ailleurs je l'utilise dans un des petits textes de ce recueil. L'armée est une accoucheuse d'État. L'armée produit de l'État, comme, pardonnez-moi cette comparaison un peu triviale, mais comme un corps humain produit de la sueur. Vous voyez, l'armée produit de l'État, de l'administration, de la bureaucratie. Bureaucratie d'ailleurs, pas forcément au sens péjoratif, mais également...
Oui, plutôt anglo-saxon.
Anglo-saxon, c'est-à-dire au sens de l'appareil administratif. L'armée produit également de l'économie, de l'industrie, etc.
De la croissance.
De la croissance. Y compris en temps de paix, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas. Ouais. Elle peut être à la fois un poids pour une économie et un volant d'entraînement. C'est un domaine assez complexe que, d'ailleurs, je vais dire, en toute modestie, il faut dire que je maîtrise pas bien ces questions économiques. Le fait est que, par exemple, la première grande emprise industrielle de l'histoire. La première grande usine de l'histoire, pour parler vite, c'est l'arsenal de Venise, dès le XIVe siècle. C'est eux qui créent en quelque sorte le premier grand complexe industriel de l'histoire de l'humanité, ou en tout cas de l'Occident.
Grégoire Gambier.
Oui, alors c'est toujours une dialectique un petit peu particulière mais féconde, hein, entre l'État et l'armée, qui a créé qui, parce que même pour Venise, je pense que la puissance des doges préexistait à l'arsenal. C'est l'arsenal qui a été l'instrument ensuite de l'expansion de cette puissance, mais la République préexistait, et c'est pour ça que je réagis un petit peu à votre propos, parce que si autant dans certains pays anglo-saxons votre analyse est tout à fait juste, en tout cas historiquement ou sociologiquement, autant en France, et nous, comme nous sommes sur Radio Courtoisie, et je connais l'attachement des auditeurs de Radio Courtoisie à l'histoire de la France, c'est l'État qui crée l'armée, ce sont les ordonnances de Charles VII. Alors, il crée l'armée permanente, au sens de l'armée moderne, hein, même si c'est le 15e siècle, la fin de la guerre de Cent Ans, qui crée donc les armées, les ordonnances, donc les armées royales, donc les soldats, les gens qui sont soldés. Alors, on pourrait dire que c'est justement pour essayer de contrôler un état de fait qui est l'état des grandes compagnies, des soldats qui existait, mais malgré tout, il y a une décision. J'en viens presque à Carl Schmitt au départ. C'est quand même une décision politique.
Absolument.
Qui s'impose, qui dit je suis l'État, j'ai besoin d'une armée. Ayant besoin d'une armée, en revanche, j'ai besoin d'impôts.
Absolument.
Et c'est là, pour le coup, je pense que l'administration fiscale suit l'administration militaire, hein, j'ai envie de dire, n'est justifiée que par l'administration militaire et donc la nécessité de la défense et de la guerre. Mais c'est quand même l'État, donc la volonté politique,
absolument,
qui crée l'armée et donc la guerre.
C'est un petit peu l'histoire éternelle et intranchable de l'œuf et de la poule.
Oui.
Effectivement, c'est une dialectique interminable, peut-être qu'il ne faut pas confondre État et nation. D'une part, je pense que la nation peut préexister à l'État. Le peuple peut préexister à l'État. On peut avoir du proto-État. Est-ce que la monarchie française avant les ordonnances de Charles VII, est-ce que c'est seulement un proto-État ? Non, je pense qu'il y a déjà plus qu'un proto-État, tout de même. Mais quand je dis elle crée de l'État, je n'ai pas voulu dire qu'elle le crée ex nihilo. Je dis qu'elle crée de l'appareil de l'État, parce que l'État, pour moi, c'est pas simplement une idée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de très matériel, l'État. C'est très concret. C'est des administrations. C'est effectivement, vous l'avez rappelé fort justement, un système fiscal, etc., etc. Donc l'armée crée, permet d'augmenter et de quelquefois même de créer presque ex nihilo un système fiscal, là où, pour reprendre votre exemple, celui de Charles VII, au milieu du XVe siècle, on ne peut pas dire que le roi de France était complètement nu en matière d'impôts, en matière de fiscalité, etc. Mais pas loin, surtout en comparaison de son adversaire de l'époque, qui était l'Anglais.
Oui, parce que vous dites dans votre livre que c'est les Anglais qui vont avoir l'argent par l'impôt et vont pouvoir financer
C'est un soldat anglais en couverture.
C'est un soldat anglais,
On en reparle. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un soldat.
C'est un Américain.
C'est un Américain. Des années 30, fin des années 30.
À l'entraînement, alors.
À l'entraînement. Dans le casque anglais, mais les galons sont américains. Le modèle de fusil est un Garand américain. La chemise est américaine. Tout est américain.
Vous voyez, vous êtes mauvaise langue, mon cher Grégoire.
Alors, je suis pas sûr que le fait que ce soit un soldat américain ne rachète totalement la.
Non, mais j'ai voulu l'attaquer parce que je sais que on me reproche souvent d'être anti-uniformologie. et là, je pense que vous êtes montré que voilà.
Alors, pour qu'il y ait guerre, il faut un ennemi. Et en vous lisant, on s'aperçoit que même la définition de l'ennemi donnée par les Grecs est restée jusqu'à notre époque actuelle. Ils considèrent eux déjà qu'il y a deux sortes d'ennemis. Quand on se bat entre Grecs et puis les barbares. Oui. Et vous donnez cet exemple du duc de Cumberland qui est édifiant, où il rejoint qui rejoint un peu l'attitude des Américains vis-à-vis de ses prisonniers à Guantanamo. Déjà, l'exemple du duc de Cumberland qui est assez drôle comme anecdote.
Oui, on sait pas sûr, c'est pas sûr qu'elle soit vraie.
Oui.
C'est pas sûr qu'elle soit vraie. Mais c'est marrant parce que c'est sur la même bataille de Fontenoy, 1745, qu'il y a plusieurs anecdotes qui vont dans le même sens. Et pour aucune de ces anecdotes, on est certain de leur véracité. Mais peu importe, comme disent les Italiens, « Essi non è vero e ben trovato ». Mais en revanche, qu'elles indiquent ces anecdotes, vous savez, il y en a trois en fait, trois principales. Il y a l'anecdote de « Messieurs les Anglais tirés les premiers », il y a l'anecdote du roi de France, Louis XV, entre parenthèses, Fontenoy, c'est la dernière bataille dans notre histoire où un roi de France a participé, enfin était présent sur le champ de bataille. Et il était présent avec le dauphin d'ailleurs. Et la légende dit que après la bataille, le roi a parcouru le champ de bataille avec son fils, le dauphin, et lui a montré ce champ de bataille jonché de morts, de membres humains, de blessés agonisants, etc., etc., en lui disant « Mon fils, n'oubliez jamais ce spectacle, le sang des ennemis, c'est aussi le sang des hommes. » Bon, vous avez l'anecdote, et puis la troisième, c'est l'anecdote du duc de Cumberland, donc le chef de l'armée anglaise, de cette bataille de Fontenoy, qui est vaincu, qui est blessé, et qui aurait, dit une autre légende, qui aurait demandé à son chirurgien personnel de soigner avant lui un grenadier français qui était en moins bon état que lui. Bon. Je vous répète, on ne sait pas si ces trois anecdotes sont vraies, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles, toutes les trois, elles interviennent, elles ont été créées, et c'est pas un hasard, à un moment où, c'est-à-dire le siècle des Lumières, où la guerre en Europe occidentale, entre Européens occidentaux, et uniquement entre Européens occidentaux, atteint un certain degré, effectivement, de contraintes et de civilisation, avec tous les guillemets qui s'imposent.
C'est ce qu'on appelle la guerre en dentelle.
C'est ce que certains littérateurs ont appelé, ont cru bon d'appeler la guerre en dentelle. Et cela dit, la guerre en dentelle, ça a des limites, parce que je pense que quand vous prenez un boulet de 12 livres dans le buste, de toute façon, il n'y a plus de dentelle.
Il y a des bras qui volent, mais il reste que la dentelle.
Mais ce qui est très drôle, c'est que vous expliquez, alors, l'histoire est vraie ou pas, que ce fameux duc, ça l'a pas dérangé. Par contre, les Écossais ne sont pas considérés comme un ennemi noble. Dans ce cas-là, c'est la boucherie, les viols,
C'est-à-dire que le même duc de Cumberland, l'année suivante, donc 1746, entre-temps, il a été libéré par les Français. Il est quand même le fils du roi d'Angleterre aussi. Et il est à la tête de l'armée anglo-écossaise. Parce qu'il y a aussi des Anglais, des Écossais collabos, on va dire, qui sont avec les Anglais.
Des Lowlands.
Ouais, pas uniquement d'ailleurs.
Pas uniquement, mais beaucoup.
Et qui vont effectivement briser, lors de la grande bataille de Culloden, la dernière tentative indépendantiste écossaise. Bon, je passe sur les détails militaires, mais... Et après cette bataille, une bonne partie des prisonniers écossais vont être vendus comme esclaves aux Caraïbes. Comme esclave blanc aux Caraïbes, sur les grandes plantations sucrières dans les îles anglaises, et puis des villages écossais entiers avec femmes, enfants, vieillards vont être brûlés, massacrés, etc. C'est-à-dire que c'est le même duc de Cumberland qui, face à des Français, Mais en, sur le terrain de l'Europe occidentale, la joue, si vous me passez l'expression civilisée et courtois, gallant, comme disent les Anglais, mais cette guerre en dentelle, elle est limitée par le fait qu'effectivement, quand on, dès qu'on est aux marges de l'Europe, et les Écossais des Highlands à l'époque sont, sont considérés
marge,
comme aux marges de l'Europe, c'est des sauvages hein, pour les Européens du cœur civilisé de l'Europe occidentale et centrale. Quand on est aux marges de l'Europe, c'est-à-dire effectivement en Écosse, en Calabre, en Europe de l'Est, etc., ou aux colonies, ou sur les mers et les océans, il n'y a plus de guerre en dentelle. Vous voyez, les mêmes Anglais et les mêmes Français qui se seraient affrontés, non pas sur la plaine de Fontenoy en Belgique actuelle, mais qui se seraient affrontés au milieu de l'Atlantique ou dans les forêts d'Amérique du Nord, vraisemblablement, je pense qu'ils ne se seraient pas comportés de la même façon.
Grégoire Gambier.
Oui, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait que l'aspect géographique des
non, c'est l'aspect civilisationnel,
des conflits. C'est l'aspect civilisationnel, puisque l'Écossais, enfin, il y avait une vraie guerre d'existence pour l'Écosse de façon évidente.
Oui.
La bataille de Culloden et avant, hein, puisque Culloden n'est que et malgré tout la dernière bataille où les Écossais n'étaient pas d'ailleurs en position de force, contrairement à oui, deux trois siècles avant. Et pour l'Angleterre aussi, c'était une question de survie, de l'existence même de l'Angleterre. Puisque l'Angleterre n'existait que
par... En tout cas,
par...
son régime politique.
Bah oui, et le joug de fait qu'elle imposait au peuple celte de la péninsule, gallois précédemment, écossais, et ensuite, on verra, les, surtout les Irlandais.
Mais avec donc, les Irlandais, le joug avait déjà commencé oui. depuis longtemps.
Oui, oui, mais la brutalité aussi va se révéler dans les décennies qui suivent. Donc, j'allais dire, au-delà de l'aspect géographique,
bien sûr.
Il y a aussi... peut-être l'aspect, j'en reviens, excusez-moi, l'aspect politique et social de la représentation de la guerre, et ce qui va peut-être nous rapprocher des conflits actuels, c'est-à-dire qu'il y a le guerrier que l'on considère comme son égal, en tout cas qui se bat avec les mêmes règles, les mêmes même type d'uniforme, même type d'armement, même type d'engagement pour et il y a les autres.
Absolument.
Les autres qui ne respectent pas ces règles
et qui peuvent en dire autant que vous.
Mais bien sûr. Non mais
c'est ça.
Non mais c'est une représentation.
Absolument.
Pour l'Écossais de Culloden comme pour le Taliban, excusez-moi le raccourci du fin fond d'Afghanistan, lui il y a pas de problème de lui il se bat, il sait pourquoi il se bat. Et c'est vous qui êtes illégitime en étant très réglé au sens westphalien du terme.
Et si on revient, je veux dire, au conflit actuel, on peut dire que les fameux prisonniers de Guantanamo, les Américains décident qu'ils ne sont pas des combattants, donc ils n'ont pas les mêmes règles.
Exactement.
Donc en fait, c'est
très américain, ça.
Ouais,
parce que ça a commencé dès qu'ils se sont engagés dans la guerre mondiale, pour faire un tout petit raccourci, mais la doctrine Wilson, de toute façon, l'engagement américain, déjà pendant la guerre de 14-18, c'était ça, c'était l'anéantissement de l'ennemi, donc il n'y a pas de rémission possible, et ça c'était encore plus vrai pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, parce que vous connaissez tous les travaux maintenant sérieux qui ont été faits sur le sort réservé aux prisonniers de guerre allemands ou aux prisonniers de guerre de l'Axe, les PGA, qui étaient considérés par les troupes américaines, mais de leur point de vue à juste titre, parce que c'était la règle d'engagement, en tout cas de l'armée américaine, ce n'était pas des prisonniers de guerre au sens de la Croix-Rouge et de la Convention de Genève, c'était des ennemis des armées, des forces ennemies des armées, qui donc échappait bizarrement, qui était dans un peu comme à Guantanamo, c'était
oui, très amusant.
Il y a une espèce de trou juridique.
Laurent Hellinger n'est pas.
Allez-y. Il y a une façon de faire la guerre malgré tout américaine, française ou allemande qui est très différente, bien qu'on soit dans des pays occidentaux.
Oui et non. Attendez, je pense que non. D'une part, il y a une tradition américaine qui existe depuis longtemps, effectivement, qui a été mise notamment en lumière dans ce travail remarquable du professeur belge Bruno Colson sur la culture stratégique américaine. L'influence de Jomini, qui est paru chez Economica au début des années 90, vous montre bien que la tradition américaine depuis le 19e siècle, c'est de rechercher la capitulation sans condition de l'adversaire, quel qu'il soit sudiste, allemand, japonais ou autre. On cherche la capitulation sans condition. Mais là, on est dans le politico-stratégique. On n'est pas au niveau du combat et des soldats. Donc c'est là où il ne faut pas confondre. En revanche, dans les deux guerres mondiales, là où je ne suis pas du tout d'accord, et c'est pas ça, d'ailleurs je dirais que ce n'est pas simplement une question d'être d'accord, c'est que c'est les faits, les soldats américains ont respecté, je ne suis pas spécialement pro-américain, pas du tout, même, hein, je vous le dis très franchement pour que les choses soient claires et pour pas qu'on me suspecte de quoi que ce soit, mais force est de reconnaître que les soldats américains ont traité leurs prisonniers, alors je vais dire après quelle exception il y a, en suivant les conventions de Genève. Les soldats allemands qu'ils avaient en face d'eux, que ce soit en 1918 ou entre 42 et 45, ils les ont traités selon les conventions de Genève. Alors bien sûr, on pourra toujours me sortir ici ou là une bavure, de même qu'il y a des bavures dans toutes les armées, dans le feu du combat, on descend un prisonnier, ça arrive, bon, bien sûr. Mais ils ont traité les Allemands, les soldats allemands, relativement correctement. Alors, ce qu'ils ont fait aux populations allemandes avec les bombardements stratégiques sur les villes, c'est une autre affaire. Ceux qu'ils ont très peu traité, en suivant les conventions de Genève et les lois de la guerre, c'est les prisonniers japonais dans le Pacifique. Et là, les chercheurs américains sont en train de redécouvrir et de relancer, de revisiter complètement l'histoire de la guerre du Pacifique. Ça s'annonce passionnant pour les années à venir, d'ailleurs. Non, le belligérant qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas traité certains prisonniers de guerre en uniforme, c'est les Allemands. Les Allemands avec les Soviétiques. Étant donné qu'ils se sont appuyés sur le fait que l'URSS n'avait pas signé les conventions de Genève, ils se sont dit, les soldats soviétiques, d'une part, ils sont pas protégés par les conventions, deuxièmement, c'est des Slaves, donc des sous-hommes, troisièmement, c'est des Rouges, donc ils ont pas eu droit.
Non, je crois que c'est très café du commerce, ce que vous dites, pardonnez-moi, mais je pense que c'est très réducteur. D'abord, je pense que...
C'est vrai, les faits historiques sont là,
pardon. Oui, enfin, malheureusement, je crois que... la bataille de faits historiques sur la Seconde Guerre mondiale reste encore assez entachée du vainqueur et du vaincu. Ce qui est certain, puisque vous évoquez, on va prendre un cas plus neutre, les prisonniers de guerre faits par les Américains, les soldats allemands prisonniers par les Américains, vous arrêtez la date 42-45. Mais 42-45, c'est la fin du conflit armé, mais c'est le début de l'enfer. C'est le début de l'enfer et c'est le début d'une politique qui a consisté à affamer les populations civiles alors que le conflit était censé être clos comme les populations militaires, les Français ayant d'ailleurs à cet égard été probablement les pires, et d'ailleurs les rapports de la Croix-Rouge à l'époque ont beaucoup plus incriminé les camps en France tenus par les Français que ceux des Américains, les Anglais semblant être moins terribles.
Non, mais, c'est juste, mais c'est par les soldats anglais qu'il y a eu le plus de viols après les Soviétiques, par exemple.
Non, je parle de la manière dont on a traité les camps de prisonniers allemands. Mais bon, de toute façon, on va pas. Mais on va faire l'émission là-dessus. Maintenant, il est évident que la vulgate consiste à dire que, bien évidemment, le soldat allemand a été le pire de tous les combattants, le moins respectueux, etc. Enfin, on cherche encore les enfants belges aux mains coupées. Et je crois que quand on regarde, notamment la violence de la guerre à l'est et les camps de prisonniers. Et malheureusement, le destin tragique qui a été celui des soldats russes libérés par leurs homologues prouve bien que des prisonniers, il y en avait largement, il y en avait énormément, qu'ils aient été affamés dans une Allemagne totalement soumise au blocus. Je ne pense pas que les soldats prisonniers étaient beaucoup moins bien traités que la population civile elle-même l'a été. En revanche, quand on compare le sort des prisonniers allemands pris par les Russes, y compris par les chiffres, on cite évidemment les fameux 6 000 survivants sur les 91 000 prisonniers de Stalingrad, mais ce n'est qu'un exemple. Enfin, je crois, on ne va pas se livrer à une comptabilité morbide, mais
c'est assez
simple.
Les prisonniers français, britanniques ou américains dans les camps allemands ont bénéficié du statut de prisonnier de guerre. Les soviétiques n'en ont pas bénéficié. C'est pas parce que c'est des soviétiques.
Mais réciproquement. Pourquoi vous dites
En URSS, ils ont bénéficié du statut de prisonnier de guerre, entre parenthèses.
Plaisanter.
Non, je plaisante pas tout.
En fait, on a et ça, c'est un vieux débat. On ne va pas faire le débat là-dessus, mais on a reproché effectivement depuis la Seconde Guerre mondiale qu'au nom de la guerre juste on a employé, vous le dites souvent, des moyens injustes. Est-ce qu'on n'est pas dans cette notion de guerre juste? Disons que c'est une sorte de mythe, on s'invente des règles en temps de paix, surtout que là, et vous en parlez, la notion de machine va prendre depuis la Première Guerre mondiale énormément d'importance. Est-ce qu'on n'est pas dans un mythe et à chaque fois que le vainqueur gagne, c'est lui qui remet des règles par-dessus, mais qui respecte pas forcément. On l'a vu, les conflits ensuite au Vietnam, en Algérie, etc.
Bien sûr, de toute façon, c'est le droit est toujours fait par celui qui est en situation de puissance. Ça, c'est évident. C'est évident, mais ça, c'est pas une découverte. Hein. C'est très banal ce que je dis.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ça a toujours quasiment existé.
Oui, bien sûr.
On a essayé de mettre des règles, mais...
Oui, mais en même temps, bon... À la fois, on peut les brocarder, ces règles, et je pense qu'on peut aussi s'en moquer, on peut les critiquer, on peut, etc., faire un travail de mise à distance, pour employer des grands mots, oui, bien sûr, mais en même temps, elles sont pas totalement inutiles non plus, elles marquent un degré de civilisation.
Alors, il y a une chose qui
avec forcément une partie hypocrisie, comme il y en a une dans ce qui est part de civilisation.
Sur ce sujet-là, ce qui est intéressant, notamment chez les anglo-saxons, c'est, même Staline avait moins de complexe, c'est que il y a une volonté de judiciariser sa cause. Et je veux dire, c'est extraordinaire. Bon, on l'a depuis
la notion de droit est reçue et
le tribunal militaire international de Nuremberg est une création. Ce n'est ni un tribunal, ce n'est ni totalement militaire, puisque seuls les juges soviétiques sont militaires, et il n'est international. En fait, ce sont les vainqueurs qui jugent les vaincus. Et on le voit aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Radovan Karadzic commence à pouvoir plaider sa cause devant le TPI. Il a 300 heures pour le faire. Voilà, le tribunal pénal international est une autre démonstration, autre conflit, autres endroits. Mais voilà, ce qui caractérise, je ne sais pas si c'est d'ailleurs peut-être une victoire du droit, je ne sais pas si c'est une victoire de la civilisation, mais il y a une volonté d'encadrer juridiquement le collapsus moral qu'on souhaite imposer à l'adversaire.
Si vous me permettez, Philippe Christel, Sophocle disait que la justice ne couche jamais dans le lit des vainqueurs. Le fait est que nos camarades et alliés anglo-saxons, quand je dis alliés au moins de ces dernières décennies, ont poussé cette maxime, enfin cette constatation qui n'était pas du tout au départ une maxime, qui était une constatation, avec un raffinement juridique assez éprouvé. Et donc une judiciarisation de l'ennemi. En tout cas, le fait que ce soit plus un ennemi au sens militaire du terme, mais un ennemi au sens judiciaire. Et donc, ce qui permet de pratiquer la guerre avec vous le soulignez, je crois, dans votre ouvrage, les traités de Westphalie sont très très loin, y compris pour la plupart des puissances occidentales lorsqu'elles sont confrontées à des ennemis qui ne sont pas celles du précaré continental. Mais certains poussent un peu plus loin, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation technique, j'ai envie de dire, le fait que la guerre a mis des millénaires à être un peu normé par les hommes, hein, avec des cultures, des contextes très différents, hein, que l'on peut. Et généralement, quand on juge une guerre telle qu'elle était menée par les Aztèques il y a 5 siècles ou au fin fond de la Polynésie, ça peut sembler très choquant pour un occidental qui arrive, mais c'était une forme de normes et
de rituel.
Et là, le rituel actuel, en tout cas occidental, mais qui s'impose, c'est plutôt l'ennemi. C'est pas un ennemi, c'est un délinquant, c'est un criminel, et il faut le détruire. Il faut pas simplement l'empêcher de nuire, il faut le détruire.
Non, c'est vrai, oui. Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie.
Le culpabiliser juridiquement.
Oui. Dans les Chroniques de la Vieille Europe, et nous recevons Laurent Henninger pour son livre Comprendre la guerre, histoire et notion. Alors, vous revenez dans un de vos chapitres sur le débat des armées professionnelles et des armées de conscrits.
Oui.
Mais aussi, et on en parlera, sur les armées privées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière, parce que vous expliquez très bien qu'au départ, les tâches subalternes comme le transport, l'entretien, même la marine, ne faisaient pas partie de l'armée. Elles ont été intégrées petit à petit dans cet organisme qui est l'armée. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire le contraire aujourd'hui. C'est qu'on voit sur les conflits modernes que le transport ou même des systèmes de protection, etc., on fait appel à du privé et même quasiment à des armées privées. Et on l'a... Comment vous expliquez ce changement ?
Parce que comment l'expliquer ? Je n'aurais pas la prétention de penser pouvoir l'expliquer. Je peux simplement le constater. Et ce que je peux constater en tant qu'historien, c'est qu'il y a un mouvement de balancier sur la longue durée historique, à travers les siècles, entre sur la grosseur des armées. Alors, grosso modo, je pense que depuis le 15e, 16e siècle, c'est-à-dire depuis la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, on était sur un trend, comme disent les économistes, sur une tendance lourde à l'augmentation de la taille des armées, en valeur relative et en valeur absolue. Et que ce trend de 5 siècles est en train de s'inverser. Mmh. Bon, effectivement, quand vous prenez les armées occidentales au Moyen-Âge, les soldats, les guerriers, ce sont les fantassins et les chevaliers. Point barre. C'est fini. Tous les autres, c'est pas des soldats. Et peu à peu, on les militarise au fil des siècles. Alors, on commence par militariser les artilleurs. Mais je vous rappelle qu'au départ, les artilleurs, ce sont des compagnons avec des
archers. Oui, c'est des archers avant les artilleurs.
Non, les archers sont militaires, ils sont soldats. Ils ont le statut de soldats. Mais les artilleurs ils ont un statut comparable à celui d'ébéniste ou de profession de ce genre. Alors ensuite, on va militariser au fil des siècles. Là, je franchis allègrement les siècles et les décennies. On va militariser les sapeurs, on va militariser les médecins, on va militariser tout ce qui est le train et la logistique. On va militariser au passage les marins.
J'étais surpris qu'ils n'étaient pas militaires au départ.
Non, mais vous savez, il y a encore des restes de ça dans la marine.
Oui, avec les conscrits maritimes.
Avec les inscrits maritimes. L'institution a été supprimée il y a quelques années, mais elle existait depuis des siècles et des siècles. Regardez comment on appelle les officiers mariniers dans la marine, puisque dans la marine, on ne parle pas de sous-officiers, mais d'officiers mariniers. Mais ça équivaut à ce que sont les sous-officiers dans l'armée terre et dans l'armée de l'air. Regardez les termes qu'on emploie pour les désigner. Second maître, premier maître, maître principal, etc. Mais ce ne sont pas des termes militaires.
Ce ne sont pas des grades.
Oui. Ce sont des termes qui viennent directement du monde du compagnonnage. Vous voyez et il y a encore des restes dans les mentalités de certains marins là-dessus. Bon, et on va militariser jusqu'à atteindre ces armées qui sont des véritables monstres bureaucratiques que sont les grandes armées des pays industrialisés pendant les deux guerres mondiales, surtout pendant la deuxième, où ce sont des sociétés bis, avec leur dentiste, leur conducteur d'automobile, leur conducteur de tocar, leur postier, et tous avec un uniforme, un badge, un insigne particulier, etc., etc. C'est une autre société en plus. Leurs animateurs radio aussi.
Oui, oui.
Vous voyez, ce sont des sociétés bis, on a militarisé, c'est devenu des espèces de monstres. Quand je dis monstres, il n'y a aucune connotation péjorative, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est gigantesque. Et effectivement, maintenant, je pense qu'on est en état de déflation. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est bon de tout démilitariser comme ça ? C'est une question qu'il faut se poser. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui conviennent de démilitariser, parce que c'est un peu absurde, de les maintenir sous statut militaire, je veux bien. Mais il faut vraiment s'interroger soigneusement. Et puis, est-ce qu'on ne va pas commencer à démilitariser aussi des fonctions militaires et de combat, proprement dit ? Et ça, ça a déjà commencé, notamment chez les anglo-saxons.
Okay, ceci dit, là, on
revient,
vous le soulignez très justement, l'armée permanente soldée, qu'elle soit professionnelle ou de conscription, ça importe peu, apparaît sur la longue durée comme une parenthèse dans l'histoire de la guerre, pas simplement de la guerre d'ailleurs en Europe, parce que là pour le coup, si on étend le champ, cinq siècles, c'est une parenthèse à l'échelle de l'histoire des civilisations.
Et surtout que les hommes se font quand même la guerre. Je pense qu'ils ont fait à peu près, ils ont commencé à faire la guerre au moment où ils ont commencé à faire l'amour. Donc c'était à peu près au tout début.
Donc c'est vraiment une des vieilles.
Oui, c'est une des très vieilles activités de l'espèce humaine, ça c'est certain. On pensait, pour juste une parenthèse sur ce point précis, on pensait jusqu'à présent que la guerre en tant que rituel sociopolitique serait apparue au néolithique. D'après les dernières recherches des préhistoriens, il semble vrai fait qu'on doive reculer encore plus dans le temps et arriver jusqu'à la... et à faire naître la guerre à la fin du Paléolithique. J'ai bien dit la guerre, j'ai pas dit la violence.
Oui, non, non, ouais, la guerre.
Oui et non, parce que les cinq siècles de, effectivement, de conscription et tout ça, c'est une parenthèse. Oui et non, parce que en même temps, et vous avez raison de dire, sortons du strict cadre
ethnocentré,
européen, qui est quand même le nôtre, hein, malgré tout. Je pourrais vous rétorquer que dans les sociétés traditionnelles, ce qu'on en appelait autrefois les sociétés primitives, mais il ne faut plus employer ce mot-là, dans les sociétés traditionnelles, tous les hommes sont combattants.
Oui.
Donc, c'est ce qui est un petit peu comparable, toutes choses étant égales par ailleurs, avec un système de conscription, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas totalement une parenthèse, ces cinq siècles de conscription. Ça l'est parce que je pense que tout phénomène historique est unique par définition. On peut le comparer, mais il est unique. Vous avez les hommes des cités grecques, à l'exception des esclaves justement, mais les hommes libres des cités grecques sont tous censés porter les armes.
Mais c'est pour ça que j'insistais, c'était pas que la conscription, c'était le concept d'armée permanente. Et le fait que les armées grecques, donc à part Sparte et quelques autres, très peu de cités ont maintenu en permanence, enfin, c'est-à-dire des soldats professionnels.
Oui.
Le citoyen, vous le disiez, était en armes, c'est bien le moins de pouvoir défendre par les armes la terre de ses pairs ou les lois de sa cité. C'est bien le minimum qu'on puisse attendre, en tout cas dans les sociétés archaïques, on va dire, traditionnelles. Ce qui semble être un peu évacué aujourd'hui, mais je pense que ça, on n'en a plus pour longtemps avant que ça revienne. En tout cas, qu'on se rende compte que c'était plutôt une bonne idée et que c'est une mauvaise idée de plus pouvoir le faire. Mais vous voyez bien, l'idée, c'est l'armée permanente soldée professionnelle, donc des gens qui ne font que ça en permanence et qui sont un peu fonctionnarisés. C'est une parenthèse historique et c'est une parenthèse et c'est très très limité dans l'espace aussi, pas
oui
que dans
non,
le temps.
Oui et non. Donc, encore une fois, parce que certains sociologues, je pense par exemple à Max Weber, ont bien montré, et les historiens et les archéologues ont appuyé ces hypothèses, l'un des fondements de l'État ou du proto-État, c'est l'armée. Y compris à l'âge de bronze. C'est-à-dire que, et Max Weber avance une explication qui est très simple. Il dit, à partir du moment où on retire des hommes de la production, du système de production, pour en faire des gens qui s'entraînent du matin au soir et font autre chose que de la production, pour pouvoir être des soldats, donc, il faut avoir déjà un surproduit qui va permettre de les nourrir, sans qu'eux aient à travailler. Donc, déjà, il y a ce phénomène de professionnalisation, pour employer des termes actuels, qu'on peut percevoir dès l'âge de bronze. Des gens qui sont retirés du cycle normal de la production agricole, en l'occurrence.
Je pense que c'est pas le sujet, mais le phénomène d'accumulation du capital qui existe déjà dans les sociétés traditionnelles et qui permet à des hommes effectivement de s'affranchir de la nécessité de travailler, et pas uniquement d'ailleurs pour se battre, même si généralement ça allait de pair, parce que les politiques, le citoyen dans les cités grecques, avant de devoir prendre les armes,
plutôt de la mésopotamie par exemple.
Oui, mais même on peut retrouver le même concept à la limite dans les sociétés féodales européennes, c'est-à-dire on s'affranchit de la nécessité de travailler parce qu'on est garanti par une certaine accumulation du capital de pouvoir faire autre chose, dont prendre des armes. Mais vous rendez bien compte que cette noblesse-là, la Mésopotamie, je connais un peu moins bien, mais je pense que c'est à peu près, les systèmes aristocratiques ont à peu près fonctionné avec le même corpus en tout cas. C'est au-delà de la guerre, c'était une ritualisation aussi de la violence, par la chasse, etc. La chasse étant elle-même un exercice de guerre à l'époque,
absolument,
où ça n'existait pas, les entraînements dans les camps militaires, etc.
Tout à fait.
Mais aussi, c'est cette société-là qui a produit les arts et en tout cas en Europe, l'amour courtois, etc. Donc on voit bien que c'est pas, enfin, ce que bon, on va pas faire toute l'émission là-dessus, je pense, Patrick Bell, puisque ça nous renvoie très donc, loin vers les sociétés européennes, mais pas que européennes, la façon dont une fraction de cette société a pu justement, ou la société elle-même, s'est organisée pour affranchir une partie de ses membres, l'aristocratie au sens exact du terme, économiquement, pour pouvoir avoir des activités non serviles au sens productives. Mmh. Et après, évidemment, la fonction noble étant la fonction guerrière, juste en dessous de la fonction sacerdotale, mais malgré tout, c'était le même corpus, mais c'est de cette classe-là, pour reprendre une terminologie un peu marxiste, mais qu'est né aussi l'art, parce que la faculté de faire autre chose que de uniquement travailler pour se nourrir.
C'est vrai.
Mais voilà, mais on referme là aussi.
Mais c'est très intéressant.
Je pense que les conflits actuels sont plus... Mais on y revient, avec les conflits actuels sont aussi très archaïques.
On y revient. Alors, il y a une deuxième partie que j'aimerais bien aborder, il nous reste un peu de temps quand même, c'est effectivement, vous parlez sur cette deuxième partie, c'est l'art de la guerre, c'est-à-dire cette stratégie, cette tactique qu'on a mis en place, que les hommes ont mis en place, qui est aussi vieille que la guerre. Dès le départ, on met en place, je veux dire, un art de la guerre, une stratégie, une tactique. Les hommes vont penser à la guerre elle-même.
Ah oui, forcément, mais déjà, on le met en... effectivement, ça a été rappelé à l'instant, d'ailleurs. Les tactiques de guerre... à l'origine, elles sont directement inspirées pour une grande partie d'entre elles, pas toutes, mais pour une grande partie d'entre elles, elles sont inspirées des tactiques de chasse. La chasse est une des sources majeures, une des, pas la seule, mais l'une des sources majeures de la guerre. Oui,
le fait que ça a commencé au paléolithique et non pas au néolithique.
Oui, absolument. Ouais.
Alors, il y a des chapitres assez savoureux. Bon, il y en a deux qui m'ont beaucoup amusé. C'est vous malmenez deux mythes. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Vous leur dites, il y a un moment, ça a été la mode.
Oui.
Tout le monde a parlé de ça. On savait pas trop de quoi en parler, mais on trouvait ça formidable.
Ouais.
Puis bon, la guérilla. Alors sur Sun Tzu, un mot là-dessus.
Bah, sur Sun Tzu, il y a un effet de mode. Pour aller vite et pour être un peu méchant, c'est l'orientalisme, quoi. C'est les chinoiseries.
Ouais.
Bon, on l'interprète un petit peu comme ça. Bon, c'est méchant, mais je pense que Sun Tzu, c'est pas que c'est nul, Sun Tzu, c'est que d'une part,
c'est un livre qui il y a je sais pas combien d'éditions.
Ouais.
On est même pas sûr.
On le cite d'autant plus qu'on l'a pas lu.
Ouais, mais au moins, je pense que il y a une différence
c'est
majeure.
C'est facile à lire que Clausewitz.
Oui. Ben oui et non, justement, c'est justement ça, à mon avis, le piège.
À comprendre peut-être pas.
Mais c'est ça le piège, c'est que Clausewitz, malgré tout, c'est un occident. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, etc. C'est vrai que c'est une lecture comme
Jomini est plus simple que Clausewitz.
Oui, mais il est pas forcément meilleur.
Non, il est plus facile à lire.
Il est plus facile, oui. Mais Clausewitz, oui, c'est vrai que c'est un philosophe de la guerre, et donc comme un ouvrage de philosophie, comme Aristote, comme Descartes, comme Pascal, c'est vrai que ça se lit plus difficilement que Mickey Parade, soit. Mais au moins c'est occidental. Je pense que Sun Tzu d'abord. Et pour commencer, c'est un Chinois qui écrit en plus il y a 2500 ans. Donc dans un univers mental qui est radicalement différent d'une autre. Et je pense que à moins, alors peut-être qu'un sinologue va bondir en m'entendant, mais moi je pense qu'à moins d'être un vrai sinologue qui depuis 30 ans a l'habitude, qui lit le chinois, qui a l'habitude de fréquenter au quotidien la culture chinoise, qui la connaît en profondeur et tout ça, à moins d'être ce monsieur-là, je pense que c'est quasiment inutilisable. J'exagère peut-être, soit, mais je pense que j'ai pas complètement.
Non, mais je.
C'est vrai qu'il y a des formules qui sont poétiques, qui sont belles et qui font plaisir et qu'on a l'impression de comprendre tout de suite. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a ce style poétique typique des auteurs asiatiques. Alors, telle la feuille qui sous le vent, etc. Ah oui, d'accord. Mais bon, ensuite, comment l'utiliser autrement, justement, l'expression a été employée tout à l'heure, autrement que dans le café du commerce.
Ouais.
On est très sceptique. Et puis, cette fois-ci, par-delà ces considérations généralistes, et il faut bien le dire aussi un peu café du commerce, je l'avoue, revenons à des considérations un peu plus historiques, Sun Tzu a beaucoup bénéficié d'effets de mode. Hein, vous avez prononcé le mot tout à l'heure.
Oui, oui, ça et le jeu de Go, la littérature sur le management.
Voilà, voilà,
tout
voilà.
Une, tout bon. Un filon là, inépuisable.
A commencé au XVIIIe siècle. C'était comme par hasard au moment où il y avait la mode en Occident des porcelaines chinoises. Ça s'est poursuivi dans les années 70 parce qu'il y a eu, je dirais, deux groupes humains radicalement opposés, mais qui sont rejoints au moins virtuellement sur ce point. Vous aviez, pour aller vite entre guillemets, à droite, des anciens de l'Indochine qui était en train d'essayer de réfléchir à la lutte contre les guérillas qui se sont dit bon ben on va lire Sun Tzu. Vous aviez d'autre côté, on est après 1968, tous les gauchistes et les maoïstes qui se sont dit ah ouais mais Sun Tzu c'est génial, c'est l'inspirateur à la fois de Mao et de la guérilla au Vietnam contre l'impérialisme américain, etc., etc., qui se sont dit bon ben voilà, on a trouvé la pierre philosophale. Bon, et puis il y a eu tout ce mythe, alors pour le coup il y a aussi, vous l'avez évoqué là encore, le mythe de la guérilla qui s'est greffé par là-dessus. Bon.
Oui, parce que vous le dites, les guérillas, vous faites remarquer qu'en règle générale, une guérilla est jamais capable de gagner une guerre. Donc, mais ça a été un mythe, que ça soit de Che Guevara.
C'est un mythe qui existe environ depuis deux siècles. C'est un mythe qui est intéressant à étudier justement en histoire des représentations, parce que c'est un mythe qui a été utilisé par tout le monde et par tous les échiquiers politiques. À droite et à gauche. Je pense que ça a commencé avec la Révolution française et avec l'affaire de Vendée. C'est là où les grands mythes guérilléristes, en quelque sorte, prennent leur lointaine source. Ensuite, vous avez toutes ces nombreuses guérillas européennes contre les armées napoléoniennes, en Espagne, en Calabre, au Tyrol, etc. Vous avez bon, mais alors là, à ce moment-là,
il y a les guerres indiennes aussi. Avant.
Pardon.
Il y a les guerres indiennes.
Et les guerres indiennes, mais à ce moment-là, elles sont pas encore passées dans la culture populaire.
Non, mais chez les armées, dans les armées, en tout cas professionnelles, anglaises et françaises, si.
Non, parce que ce sont des troupes qui sont restées. Les troupes qui combattent les Indiens en Amérique du Nord au XVIIIe siècle sont des troupes qui sont des troupes là-bas sur place et qui ne reviennent pas en quelque sorte répandre le mythe en Europe. Le mythe des guerres indiennes.
Ah, je sais plus si c'est Frotté ou je sais plus quel chef choix en Normand. Effectivement, là, surtout, là, vous me prenez au dépourvu, mais il y en a quelques-uns. Je ne parle pas de Lafayette, qui a plutôt fait une guerre, là, pour le coup, de représentation, mais qui est allé, mais qui est revenu. Mais il y en a quelques autres qui sont revenus.
Voilà. Je creuse la question.
Mais ceci, c'est pas ça qui a fait la révolution. C'était pas une révolution militaire. Sauf que, malgré tout, peut-être que la Vendée n'aurait pas existé sans l'idée qu'on pouvait le faire. Il y avait un mélange de le souvenir des jacqueries.
Absolument. Voilà,
non, mais ça, les jacqueries, absolument.
Dans la révolte des peuples.
Oui, absolument.
Il y a quand même un mélange des deux. C'est vrai. Il y a la jacquerie traditionnelle et il y a le fait que on soit déjà dans une guerre révolutionnaire. Au sens c'est la guerre révolutionnaire contre la révolution.
Vous expliquez que la guérilla, le gros problème qu'elle a, c'est qu'elle est obligée d'avoir le peuple avec elle. C'est le seul moyen qu'elle aurait.
En tout cas, de prétendre
qu'elle représente le peuple.
Oui, bien sûr. Bah oui, mais les guérillas, vous savez, militairement, elles gagnent jamais grand-chose. Je pense que les guerres se gagnent avec des gros moyens lourds et pas glamour, hein, qui sont ceux de la bonne vieille guerre traditionnelle lourde et qui cogne. La guérilla, au mieux, c'est une solution d'attente stratégique pour gagner du temps, parce qu'on peut pas faire autrement. Et c'est un mythe, alors je vous dis, c'est un mythe qui a été instrumentalisé par des courants plutôt marqués à droite, par des courants marqués à gauche, selon les époques, ça oscille. Et sauf que nous, à notre époque, on a plutôt l'habitude, tout au long des années 50, 60, 70, d'avoir entendu d'avoir entendu la guérilla glorifiée par les milieux de gauche, mais à d'autres époques, c'était l'inverse. C'est une mythologie qui correspond là aussi, alors par-delà les aspects idéologiques, la droite, la gauche, qui correspond aussi à des représentations et des utopies. Mais des utopies, qui seraient cette fois-ci des utopies militaires, un peu comme il y a des utopies sociales, vous voyez, au 19e siècle, on va créer une utopie sociale, un phalanstère, etc. C'est une utopie militaire.
Ou des bases autonomes.
On est des bases autonomes, on n'a pas de chef. Alors qu'on sait que les chefs des guérillas, dans la réalité, sont des petits caudillos et des petits tyrans abominables.
Vous êtes pour Zapata, qui était un brave homme.
Oui, mais c'était pas la guérilla.
Ça revient à tout, si vous permettez, à presque notre premier échange. Parce que qu'est-ce que la guerre? Est-ce que si c'est un acte politique, essentiellement, et pour obtenir un résultat. Donc au sens clausewitzien du terme, c'est voilà la continuation de la politique par d'autres moyens, mais l'objectif à atteindre, l'effet final recherché, est bien un effet final de politique. C'est-à-dire on impose d'une façon ou d'une autre sa solution, sa volonté à l'autre. Auquel cas, la guérilla n'est qu'une méthode parmi d'autres, et elle n'est pas plus, pas moins scandaleuse et pas moins ridicule en termes d'effet résultat final qu'une attaque massive comme la première armée du monde américaine en l'espèce l'a faite en 91 ou en 2003 en Irak et en Afghanistan. Parce que si c'est juste la guerre, est-ce que c'est beau remporter une bataille? C'est sûr que les guerriers héros ont peu de chances de remporter des batailles. Ils peuvent faire des belles escarmouches, faire quelques dégâts plutôt symboliques que réellement mais militaires, au sens en tout cas, opératifs et tactiques, mais stratégiquement, puisque la guerre, c'est d'abord la stratégie, il me semble.
Oui, non, je suis d'accord.
Et donc, c'est la stratégie dix types. Bien motivés qui font un résultat qui n'est pas qui militairement est jugé ridicule par les militaires, parce que c'est pas dans les normes de la guerre, et que malgré tout ils ont pas obtenu la position, ils l'ont pas tenu suffisamment longtemps, et donc c'est pas dans les TTA. Alors que le résultat politique lui par rapport au coût, en tout cas, il est stratégique, et donc on revient bien dans la guerre, c'est-à-dire on obtient un résultat politique.
La réponse de Laurent Nimmo.
Alors moi je pense exactement l'inverse. Je suis d'accord avec vous, mais totalement d'accord quand vous dites la guerre c'est d'abord avant tout la stratégie. Je pense. Ça on est entièrement d'accord. La tactique et tout ça c'est secondaire. Mais paradoxalement.
Oui, c'est amusant et intéressant. Hein,
bien sûr. Mais moi justement je pense que la guérilla c'est une tactique. Et rien de plus. Et qu'elle peut être intéressante tactiquement. À la limite, vous savez, ce que font les forces spéciales dans les armées occidentales aujourd'hui, ils reprennent en grande partie ce que font les guérilleros depuis des siècles.
Elles sont engagées justement pour obtenir un résultat stratégique. Donc stratégique.
C'est sauf qu'elles ne sont pas suffisantes, les forces spéciales.
Non, mais sûr que non. Justement. À un moment donné, le politique a besoin de tels résultats.
Oui, bien sûr. Mais la guérilla, c'est pareil. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour emporter la guerre. C'est important pour emporter une décision, pour obtenir quelque chose de ponctuel, de précis, etc. Mais moi, je ne crois pas. Mais là, c'est un vaste débat théorique immense qu'on peut aborder si vous voulez, mais qu'on ne tranchera pas ce soir.
Non.
De croire en l'action ou l'arme ou la bataille décisive et miracle au sens unique. La bataille décisive en un point et un lieu unique, par exemple, qui correspond d'ailleurs à la règle du théâtre classique.
C'est du Jomini.
Voilà. La bataille décisive, c'est un fantasme. L'arme, L' majuscule décisive, qui à elle seule va permettre l'arme miracle, on est dans la pensée magique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'arme miracle.
Alors, on est sur Radio Courtoisie dans les chroniques de la vieille Europe et on reçoit Laurent Inger. Il nous reste à peu près 5 ou 6 minutes pour son livre Comprendre la guerre, histoire et notion.
Alors, 30 secondes sur ce dernier point. L'arme miracle. Vu par les Japonais de Hiroshima et de Nagasaki, quand même, c'est assez efficace.
Oui, mais là, on rentre dans un autre domaine. Est-ce que c'est...
Mais là, vous trichez un peu.
Non, c'est une vraie question. On est dans une logique de conflit. Il y a un belligérant qui est capable de faire un écart technologique majeur avec une arme, je ne sais pas si elle est miracle, mais qui, à l'évidence, démontre une supériorité technologique évidente. Et ça traîne quand même pas trop après Nagasaki de se ranger à la raison.
Sachant que l'écart n'est pas que technologique,
C'est de la technologie et de la détermination.
C'est une très importante question, mais justement, je vais vous répondre par une pirouette. C'est pas un hasard si dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'arme nucléaire est de fait retirée du contrôle des militaires. C'est pas un hasard, parce que c'est plus de la... À ce niveau-là, c'est... À la fois, j'aurais tendance à dire, c'est plus de la guerre, c'est de la dissuasion, mais c'est encore de la guerre, mais c'est à un niveau tel que c'est vraiment les politiques qui en ont le... Par exemple, sur la question de la révolution militaire, moi, c'est un débat que j'ai souvent eu. Moi qui travaille beaucoup sur les questions des révolutions, de grands changements dans l'art de la guerre à travers les âges, des grands tournants, etc. Il y a plein de gens qui me disent, oui, mais l'arme nucléaire, c'en est un. Moi, je dis non. L'arme nucléaire n'est pas une révolution militaire. Pourquoi ?
C'est une révolution dans les relations internationales et dans la diplomatie. C'est autre chose. Les relations internationales et la diplomatie, c'est très lié à la guerre. Bien sûr, il y a des liens en permanence, mais comme les maths et la physique sont liés, bien évidemment, en permanence. Mais ce sont quand même deux disciplines différentes. L'arme nucléaire n'a pas révolutionné l'art de la guerre. Elle a révolutionné les RI, les relations internationales et la diplomatie.
Vous avez raison, d'ailleurs, la bombe atomique n'est pas utilisée pour neutraliser l'armée japonaise. C'est pas
absolument,
un c'est justement je
tout
mais vous donnez l'exemple par exemple en l'Angleterre qui a la bombe atomique depuis très longtemps, les Argentins ne se sont pas posé la question au moment d'envahir les Malouines qu'ils allaient se prendre une bombe atomique, donc ils savaient déjà que ils ne risquaient strictement rien à ce niveau-là.
Tout à fait.
Vous savez que vous citez cet exemple là Patrick, le jour de la mort de Claude Cheysson.
Oui.
Qui en son temps, et contrairement au défunt président Mitterrand, avait soutenu l'Argentine.
Parce que c'est un lecteur de présent d'Alain Sanders, donc
c'est probablement ça.
Pour l'Argentine.
On va finir juste, vous finissez votre livre par les batailles qui sont des lieux de mémoire.
Oui.
Quelle est l'importance de la mémoire collective d'une bataille, sachant que, et vous le dites, que c'est pas forcément les plus glorieuses qui sont gardées.
La mémoire collective d'une bataille, d'abord, elle fluctue à travers le temps. Je pense que pour nous, encore aujourd'hui, pour notre génération, c'est Verdun qui constitue un souvenir qui est encore très présent dans l'inconscient populaire et même le conscient populaire français, y compris encore dans les jeunes générations. Bon, je ne sais pas ce que ça sera dans 30 ans, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore présent, globalement. Mais parce que ce sont des traumas. Enfin, pour le cas de Verdun, par exemple, parce que c'est un traumatisme. Alors ensuite, il faudrait voir pays par pays. Sont des constructions mémorielles aussi. Hein. Quand je dis construction, c'est pas forcément, encore une fois, c'est pas forcément un terme péjoratif. Hein. Il y a une part effectivement d'artificialité quand on parle de construction mémorielle et donc de propagande pour aller vite. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Pour les Alpes, vous savez, pour les Français, la grande bataille napoléonienne, c'est Austerlitz, et c'est normal. Pour les Allemands, c'est Leipzig. Pour les Anglais, c'est Waterloo. Non, évidemment.
Mais pour les Russes, c'est
Borodino. c'est la Moscova. Oui. Et c'est normal. Et c'est normal, bien évidemment.
Même s'il est probable que bien plus de Français sont allés voir le tertre de Waterloo que la mort de plaine d'Austerlitz,
Je
puis dire.
Bien sûr. Bah, c'est aussi
plus près.
Bien évidemment. Mais il y a aussi un aspect géographique qui permet de maintenir. On parlait de Fontenoy tout à l'heure quand il y a un obélisque à Fontenoy, parce que Fontenoy est un territoire belge. C'est un obélisque perdu au milieu d'un lotissement. C'est totalement anachronique. Il existe encore, mais
pour combien de temps
Pour combien de temps
On a terminé. Écoutez, merci Laurent Ninger de votre venue. Je rappelle
si
le titre.
Patrick.
Oui, allez-y, Grégoire.
Puisque je crois que notre invité.
Oh, mais j'allais vous donner la parole pour.
Notre invité de ce soir, outre cet ouvrage très intéressant, coécrit donc avec Thierry Wiedemann, est un collaborateur régulier, si je ne m'abuse, de Guerre et Histoire, la revue très intéressante, donc publiée sous l'égide de Science et Vie. Et je voulais rebondir sur ces histoires de bataille, puisque Guerre et Histoire, en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire bataille, mais c'est aussi. C'est une façon de reprendre l'histoire militaire et l'histoire stratégique un peu à contre-pied. Oui. Je me souviens d'un numéro sur les paras qui ont toujours été
excellent.
Mauvais, le mythe de l'armée allemande, etc.
Avec les copains parents, on s'est pas mal engueulé après la sortie.
Ça s'est bien terminé.
C'est toujours comme ça quand on attaque les mythes. Faut faire attention. Et donc, ce mois-ci, donc octobre 2012, Guerre et Histoire, il y a justement un article très intéressant sur la bataille de Denain, 1712, puisqu'on parlait de Fontenoy et des autres, et une bataille, ce qui est intéressant dans cette revue, c'est que ça réhabilite certaines batailles et ça les remet en perspective. Et le dossier vous intéressera tout particulièrement, Patrick Pell, puisque c'est sur le pétrole, l'arme noire qui a fait gagner les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et là c'est de la grande politique pour le coup.
L'arme noire qui n'est pas la force noire.
Merci Grégoire,
c'est pas la même arme noire.
On fait une légère pause pour un message et on reprend ensuite avec Philippe Restel.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 18 novembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 18 novembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émission de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 18 novembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Voilà, nous reprenons pour cette deuxième partie avec Philippe Christel pour cette actualité européenne. Mon cher Philippe, je crois qu'il y a beaucoup, vous avez beaucoup de choses à dire, et je crois qu'on va surtout parler de cette fameuse fusion qui, en fait, il y a le mois dernier, on pensait qu'elle allait se faire, et tout est patatras, tout est par terre.
Écoutez, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais rappelez-vous que dans les circonstances un petit peu dégradées, dans lesquels j'ai pu assurer les 20 dernières minutes de ma chronique de l'émission du mois dernier, je vous ai dit, j'aurais voulu vous parler de cette fusion EADS-BAE, et je vous ai dit, en ce qui me concerne, je n'y crois pas, mais on verra bien. Enfin, pour une fois, je ne m'étais pas trompé, mais je dois reconnaître que j'arrive
souvent,
pas le seul.
Philippe.
Je n'étais pas le seul, donc je n'en tire pas gloriole excessive.
Vous l'avez dit de façon aussi nette à la
je l'ai dit,
je ne m'en souviens pas.
Aussi nette, hein. Si, aussi nette, je l'ai dit, je n'y crois pas, mais on verra. Si vous pouvez vérifier les bandes, je suis à peu près sûr de moi. Je suis même totalement sûr de moi. Non, ce qui est intéressant, bon, je la fais courte pour nos auditeurs. Donc EADS, c'est le géant européen, le symbole de la coopération entre la France et l'Allemagne. Enfin, qui réalise, c'est principalement Airbus, c'est d'ailleurs 90% de son chiffre d'affaires. L'enjeu de EADS, c'est d'être capable de trouver des relais dans les marchés de défense pour pouvoir maintenir une recherche et développement élevée la production en série de ces aéronefs civils ne lui permet pas de maintenir à niveau élevé. British Aerospace, c'est la grande industrie de défense aéronautique principalement et électronique britannique, qui elle-même est en difficulté et qui surtout est en très forte dépendance des contrats auprès du Pentagone. Et donc l'idée de la direction de EADS, c'était une fusion qui aurait eu comme avantage et bien de donner la taille critique à EADS, puisque le rapport des deux groupes faisait que, alors il y avait des discussions interminables sur la parité, mais que grosso modo autour d'un 60-40, on pouvait donc avoir une entreprise de taille tout à fait comparable à celle des géants américains de la défense, Boeing au premier chef, et permettant à EADS d'atteindre ses objectifs. Et puis patatras, au bout d'une quinzaine de jours, on se rend compte que cette fusion n'est pas possible, et les uns et les autres, commentateurs tous à plus avertis les uns que les autres, incriminent l'Allemagne qui aurait fait preuve de quelques réflexes nationalistes pour empêcher cette dilution dans un ensemble plus vaste.
Juste une précision, si j'ai bien compris, c'était les sociétés qui voulaient. Il n'y a pas eu une volonté des États de réunir au départ ces deux entités.
Non, effectivement, ce sont les sociétés qui le voulaient. EADS compte, donc British Aerospace compte à son capital un certain nombre d'acteurs financiers, mais avec le principe de ce qu'on appelle une golden share de l'État britannique. Donc l'État britannique a un droit de veto sur un certain nombre d'activités de BAE, et du côté EADS, l'État français est directement, lui, au capital, et l'État allemand n'est pas directement au capital, mais l'est de facto via la représentation représentation de l'allemand Daimler qui, pour le coup, n'avait pas l'intention de jouer le franc-tireur par rapport à ce qu'aurait voulu Berlin. L'allemand Daimler, voulant d'ailleurs sortir pour pouvoir se concentrer sur l'automobile au sens large, Berlin négocie sur le périmètre allemand la reprise des parts de Daimler par une banque publique allemande. Mais au-delà de ce montage, ce que je voulais commenter ou peut-être décrypter pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont friands de décryptage, c'est peut-être quatre éléments. Le premier élément, c'est que toute l'opération repose sur la crédulité ou la croyance dans le fait que un EADS fortement, qui restera fortement européanisé, même s'il aura été anglicisé, aurait les commandes et les budgets militaires dont disposait British Aerospace. Personne ne s'est interrogé sur la force de cette hypothèse. Je rappelle que on considère que sur la scène industrielle américaine, il y a grosso modo quatre acteurs majeurs de la taille de ce futur, la taille qui aurait été celle du futur ensemble. Et connaissant un, la raréfaction des budgets, deux, la logique très protectionniste américaine, trois, la méfiance structurelle sur des pays qui sont pas totalement alignés, on peut quand même s'imaginer que le montage a été construit sur des paris osés. Deuxièmement, ce qui est très drôle dans ce type d'événement, c'est que vous voyez toute une cohorte de porteurs de bonnes idées qui vous expliquent qu'évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Et alors, on se rend pas compte quand on subit le balai médiatique, on se rend pas compte qu'en fait, vous avez plein de gens qui ont un intérêt tout à fait égoïste à réaliser une opération. Les premiers à le faire, c'est le management, la direction de EADS. Il est évidemment beaucoup plus rigolo de diriger un groupe deux fois plus gros que celui que vous dirigez.
Ah bah oui.
À nouveau jouer. Et on ne peut pas le reprocher à ses dirigeants. Quelqu'un qui fait correctement son travail, et a priori c'est le cas de l'équipe de direction de EADS, est logique qu'elle ait aussi une volonté de puissance dans son métier et de rayonnement de son entreprise. Deuxième élément, c'est que quand un contrat ou une fusion de cet ordre-là, c'est un deal, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le mot qui convient en telles circonstances, qui est absolument inratable pour toute une série de banquiers d'affaires de toutes sortes. Et que l'appât du gain et l'appât du coût à jouer est absolument considérable. Il est urgent que le deal se fasse, quelles qu'en soient pour les peuples les conséquences. Et puis troisièmement, c'est les journalistes qui vont feuilletonner tranquillement. Et accessoirement, on aura retrouvé, et c'est amusant mais pas surprenant pour qui sait décrypter, on aura retrouvé les articles les plus encourageants et sur cette fusion et les plus sévères sur la réaction allemande dans le journal Le Monde, qui nous refait le coup de la taille au gigantisme, la croyance dans le fait qu'un nouveau groupe beaucoup plus fort, beaucoup plus international saura résister, défendre l'emploi, blablabla, alors que quand même l'histoire majeur de la course à la taille et de la consolidation d'un certain nombre de groupes industriels montre que, à l'évidence, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour l'emploi et ce ne sont pas non plus des bonnes nouvelles pour les industries domestiques. Mais de cela, Le Monde n'en a cure, même s'il fait le reste de ses pages centrales sur Petroplus, PSA, Fralib, Moulinex et Tutti Quanti.
Si je ne m'abuse, aux États-Unis, il y a déjà eu ce genre de fusion de gros groupes à l'époque de Boeing, etc. Ça n'a pas été forcément doubler le chiffre d'affaires et les commandes de Boeing.
Il y a eu des fusions. Il y a eu des fusions dans la défense. Hein, et il y a plus de fusions que de coopération d'ailleurs. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans les descriptions comparatives des capitalismes des uns et des autres. Mais le jeu est d'autant plus violent à l'intérieur de la scène économique américaine et entre entreprises américaines qu'elles se savent globalement protégées par un protectionnisme de bon aloi qui fait que grosso modo elles continueront à avoir des marchés sous réserve de ne pas être totalement incompétente, c'est-à-dire trop cher. Le troisième élément, il fait pas prêt. Je vais passer vite dessus parce qu'il est ridicule. Enfin, on a quand même assisté à une pantalonnade de Lagardère Junior.
Mais il y a autre chose à faire.
Non mais c'est incroyable.
Vous comprenez pas.
Non mais bien, je comprends pas.
Je vais pas comprendre.
Je comprends pas. Ce type-là est président du directoire de ADS et il a fallu pendant 10 jours attendre que monsieur réponde à un mail parce qu'il était en train de folâtrer à New York avec sa nouvelle compagne, un mannequin belge. Enfin, c'est incroyable parce que les deux actionnaires privés du couple du bras armé franco-allemand, qui sont le groupe Lagardère pour les Français et Daimler pour les Allemands. Daimler est très pressé de sortir pour un certain nombre de nécessités de sortie de cash sur d'autres programmes. Lagardère est prêt à attendre 2014 et la fin du pacte d'actionnaires. Et donc Daimler s'est comporté de manière beaucoup plus responsable que Lagardère, qui n'a pas fait quand même honneur au pays là-dessus. Et puis, le quatrième élément qui me paraît assez intéressant, c'est on a donc assisté à une position allemande qui, relativement clairement, a dit nein à l'opération, tout simplement parce que l'Allemagne a fait valoir ses intérêts, Oresco référence. Et c'est intéressant, puisque nous qui sommes les apôtres de cette vieille Europe par Berlin-Moscou, nous avons toujours considéré que ADS était un bel outil qui pouvait être dévoyé et qu'il fallait préserver, eh bien, force est de constater que l'Allemagne a, je pense, sauvé notre peau sur ce sujet-là, là où la France s'est largement rangée aux avis des Britanniques. Il y a trois éléments qui ont fait que l'Allemagne s'est battue. L'Allemagne s'est battue pour trois raisons. Donc, la première, c'est que dès le début, le projet prévoyait que les activités défense de ADS, qui sont logées dans une filiale qui s'appelle Cassidian et qui sont essentiellement situées en Allemagne, eh bien, allaient être mises sous la férule de British Aerospace, ce qui n'était pas acceptable pour l'Allemagne. Le deuxième élément, c'est que l'Allemagne voyait également le risque que lui échappe un certain nombre de technologies, notamment en matière aérospatiale. Or, l'enjeu de ADS, c'est d'avoir un outil qui permet de développer ces technologies et de les mettre aussi à disposition des États. Et puis le troisième élément, c'est l'emploi. Je rappelle quand même qu'il y a 50 000 salariés et 29 sites industriels outre-Rhin. Et on a vu pour la première fois, et ça c'est amusant parce que on voit quand même bouger un certain nombre de lignes apportées par la crise, on a vu le ministre de l'économie, qui est un membre du parti libéral FDP, c'est-à-dire le parti libéral FDP, c'est quand même pas des gentils membres en matière de libéralisme économique. Et donc Philippe Rösler lui-même a quand même affirmé, c'est la première fois qu'il l'a dit, que l'Allemagne devait préserver ses intérêts. Bref, voilà pourquoi, me semble-t-il, la fusion était vouée à l'échec. Probablement, est-ce que parce que j'avais peut-être trop confiance, ou en tout cas raison d'avoir confiance dans les Allemands. Mais en tout cas, donc on va voir la suite. EADS ne voit pas ses affaires arrangées puisque son périmètre, son périmètre militaire reste inchangé. Pour British Aerospace, c'est plus compliqué. En tout cas, voilà un bel outil qui était aux marges du politique, du stratégique et des technologies de souveraineté qu'on aurait pu dévoyer et qu'on a provisoirement, en tous les cas, peut-être sauvé.
Grégoire Gambier, vous pas tout. Bon, alors vous continuez.
Non, je ne sais pas ce que pense Moscou de cette opération, Philippe Christel.
On n'a pas parlé de la position de Moscou. Malheureusement, Moscou n'a pas aujourd'hui les moyens de discuter sur l'aéronautique et de rentrer dans la cour des grands. Moscou cherche plutôt avec succès pour l'instant à recycler une partie de son avionique militaire en l'amenant sur des projets civils, mais il est probable qu'on paye quand même 10 années, 90-2000, 10 années de stérilité absolue et de non progrès dans un certain nombre de vous savez comme moi que les projets de R&D sont de recherche développement sont des projets qui parfois aboutissent à 30 ou 40 ans.
Ouais, très, très longtemps.
Le calendrier aujourd'hui, c'est l'impact du trou
des 10 ans helsiniens de
l'anarchie des oligarques. Alors, il n'y a quand même pas que des bonnes nouvelles qui viennent d'Allemagne. Quelques chiffres totalement effrayants qui m'ont donc effrayé et que je veux partager avec les auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'il y a quand même ce serait quand même pas normal qu'il y ait que moi que ce soit effrayé. Donc l'Institut allemand de statistiques vient de publier, comme tous les ans, toute une série de statistiques, et cette fois-ci son président s'est focalisé sur un point précis, qui est le vieillissement de la population. Et effectivement, les chiffres sont absolument cruel. 8 enfants pour 1000 habitants naissent chaque année en Allemagne. C'est le taux le plus bas du monde. Même le Japon fait mieux.
29% des ménages seulement sont des familles traditionnelles avec enfants, pour 43% de célibataires. Alors, ce qui laisse plein d'options, hein, pour... Oui, ceux qui ont des courses à faire, mais enfin quand même, c'est quand même pas rassurant. Aussi,
ouais.
Et donc voilà, on comprend mieux, évidemment. C'est aussi intéressant d'avoir ces chiffres-là parce que ça explique un certain nombre de crispations sur la notion de la dette, sur la notion des systèmes de retraite qui sont d'ailleurs totalement excédentaires pour l'instant en Allemagne. Et donc voilà. Alors ce qui est intéressant, même si c'est tardif, c'est que on voit que timidement les différentes villes et les différents États-régions réimpulsent des volontés, des politiques volontaristes en matière de politique familiale, ouvrir des crèches, etc. Mais
on part de loin.
On part de loin. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on avait connu dans la bouche, je me rappelle de Juppé, il y a une dizaine d'années, le réflexe n'est pas, non seulement le réflexe n'est pas à vouloir combler sur l'immigration. Et surtout, quand on regarde les flux de population, on se rend compte qu'il n'y a pas de phénomène migratoire fort qui vienne jouer la substitution. Alors les chiffres, j'imagine que comme chez nous, leurs chiffres sont probablement sujets à caution, je ne sais pas. En gros, les chiffres de 2010, c'est 800 000 personnes se sont installées en Allemagne et 680 personnes l'ont quitté. Donc vous avez un sol migratoire qui est de 5 000 personnes, qui est assez dérisoire par rapport aux chiffres indiqués.
Grégoire Gambier.
Oui, Philippe Christès, vous me permettez vos chiffres me permettent de remettre un petit peu en perspective pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je sais qu'ils le font naturellement, mais essayons de partager cette impression. Une remise en perspective, en tout cas, un peu de distance salutaire avec un certain discours germano-pratin et germanophobe. En même temps, qui voudrait dénoncer le diktat allemand, une espèce de crispation nationale, vous l'avez dit, même nationaliste allemande, qui se sentirait forte, l'Allemagne, et qui voudrait donc imposer sa loi au sein de l'Union européenne, voire même au sein de l'Europe continentale, et on sait où ça nous a mené, toutes ces crispations. Or, quand on raisonne à long terme et de façon géopolitique, et nous sommes aux chroniques de la vieille Europe ici pour le faire aussi, de temps en temps, on sait bien que le facteur démographique est un facteur lourd et excessivement prégnant dans la puissance géopolitique d'une nation. Et que derrière les affolements médiatiques français de façade, il y a quand même une vraie inquiétude en Europe, pour faire court. S'il y a une inquiétude pour l'Europe, ce n'est pas l'excès de puissance ou le risque d'un diktat allemand aujourd'hui, c'est le risque d'un affaissement démographique et donc de la puissance allemande au cœur de l'Europe d'ici 10, 15 ou 20 ans. Ça, c'est un vrai risque géopolitique.
Absolument.
Et que tout le monde paiera et très cher.
Absolument. Et donc, vous abondez dans ce que nous disons régulièrement. Nous avions eu l'occasion de dire, voilà, le débat sur la crise de la dette, sur une certaine rigidité des positions allemandes, a amené, on avait parlé d'Arnaud Montebourg, on avait même reproché à Marine Le Pen de s'être laissé avoir, d'être tombé dans ce piège, et il ne faudrait pas que les conséquences de cela soient retour bien pratique à une certaine germanophobie qui soit le paravent de notre incapacité à traiter nos propres difficultés, ce que nous n'avons toujours pas commencé à faire, comme en a témoigné le projet de budget qui a dû être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par notre nouveau gouvernement.
Bon, on terminera avec l'Allemagne. Juste l'anecdote, c'était pour rire. Il y a un vieux Berlinois, on lui posait la question de la démographie. Il a fait, mais comme ça, pour la prochaine guerre, on ne pourra pas nous accuser de la faire. Voilà. Vous pensez à quoi maintenant ?
Oui, je trouve que... Il y a quelques éléments, ce raidissement de l'Allemagne sur ses propres intérêts, pour les raisons démographiques, entre autres, que vient d'exposer Grégoire Gambier, ça fait partie d'un certain nombre de petits signes qui sont intéressants à observer. Dans la même semaine, nous avons également observé trois signes importants qui viennent déstabiliser le système européen un petit peu moisi qu'on connaît et qui viennent donner un petit coup d'air frais et de vitalité dans un certain nombre de communautés ethniques puissantes. La première chose, c'est évidemment, on ne peut pas ne pas saluer la victoire des séparatistes flamands, comme dit la presse, aux élections municipales, communales, comme on dit en Belgique, de dimanche dernier. Il y a évidemment la victoire symbolique à Anvers. Mais il y a également, même si les autres grandes villes ne sont pas tombées, puisque effectivement que ce soit Gand, Bruges ou d'autres sont restés dans le giron des partis libéraux, chrétiens, démocrates ou socialistes flamands, mais il y a un enracinement durable de centaines d'élus municipaux et de petits majorats en zone flamande.
On pourra penser quand même avec un peu d'émotion à nos, alors, à nos amis du Flanders Belang, quand même.
J'allais y venir.
Et qui peut-être, d'ailleurs, si je peux me permettre, mais vous pourrez développer, c'est intéressant de voir ce qui se passe en Flandre, oui. en Belgique, parce que le travail phénoménal qu'a fait le Flanders Belang, y compris en termes de modernisation de son logiciel idéologique, comme dirait Louis Alliot, et de ses méthodes ses méthodes militantes, ça pourrait très bien arriver, par exemple, au Front National en France.
Mais alors, vous me l'ôtez parce que je voulais terminer là-dessus. Mais effectivement, le premier sujet, c'est que on est là à l'autre, bien évidemment, Bart de Wever, et non pas Bart de Wever, comme tous les
journalistes. Les germano-pratins.
Donc Bart de Wever a bien évidemment immédiatement apostrophé le sémillant Elio Di Rupo, qui est probablement le seul socialiste wallon pas encore rattrapé par ni par la corruption ni par la pédophilie. Et donc pour lui demander une réforme confédérale à mener dès 2014. Donc pour l'instant les partis ont botté en touche, mais très clairement la NVA vient de donner le là, et très clairement cette révolte, alors ça vient pour pondérer un peu ce que dit Grégoire Gambier, c'est qu'une partie du succès électoral vient majoritairement du fait que en ces temps de crise c'est la question la question fiscale qui a bien évidemment été mise en exergue, puisque l'État fédéral demande davantage à la région riche pour aider la région pauvre, et que en ce moment les transferts de solidarité fiscale ne sont pas les bienvenus. Mais il est évident qu'il y a là une victoire flagrante de la NVA, et donc on est un peu triste pour nos amis du Vlaams Belang
qui avaient fait le travail,
fait un gros boulot, et qui n'ont pas réussi à transformer. On va voir donc ce qu'il va, rien qu'à Anvers, hein, où Philippe de Winter tombe à quelques 10% des voix, lui qui a toujours flirté avec les 33-34 et qui a toujours vu se dresser face à lui le fameux cordon sanitaire.
Oui, mais en théorie, il est indispensable, non, à la NVA pour prendre la. Enfin, je connais mal le système électoral.
Sauf que vous trouverez dans la grande coalition menée par le socialiste Janssens, mais dans lequel il y avait également des chrétiens, démocrates et des libéraux, vous trouverez des gens qui seront prêts à faire la majorité de Bart de Wever, qui a annoncé et c'est pas à Anvers qu'il va faire qu'il va jouer sur le terrain d'Audreux local. Non, ce qui est intéressant, effectivement, et vous aviez raison, c'est que il y a là une transition pour quelque chose vient de se lever, qui est certes en réaction aux impôts, certes sur un fonds qui existait déjà, mais qui est très clairement vers une émancipation une volonté d'émancipation de la Flandre. Je lisais il y a encore une semaine, un journaliste très optimiste qui disait, qui commentait le mouvement des pigeons. Hein, donc, sont ces mouvements des entrepreneurs ou dirigeants d'entreprises scandalisés par les mesures fiscales du gouvernement et qui
des poujadistes.
ça c'est ce qu'on peut dire et qui ont réussi à générer un mouvement très fort. Et donc le journaliste disait, tiens, est-ce que ce ne sont pas là les prémices d'une sorte de Tea Party à la française? Et donc pense que c'est très optimiste, mais ouais. Dans quelle mesure un Front National qui n'arriverait pas à se moderniser, à déboucher, à attaquer véritablement les options du pouvoir local et à ne pas sortir de la logique de la merde présidente, de toutes les batailles présidentielles, dans quelle mesure est-ce qu'une NVA demain en France ne pourrait pas glisser sur le succès initial du Front National? Je pense qu'on en est loin, la structure du pays est très différente, mais c'est quand même ça, l'alerte doit sonner quand on voit ce que fait ce que cherche à faire l'UMP de manière totalement médiatique, mais je pense que l'alerte doit sonner du côté de Marine Le Pen. Deuxième symbole fort sur ces identités européennes, c'est l'accord arraché par David Cameron et Alex Salmond, le patron du Scottish National Party, sur un référendum pour l'indépendance de l'Écosse en 2014. Aujourd'hui, les projections ne donnent pas l'indépendance gagnante, hein, mais puisque nous avons parlé de Culloden et de Bonnie Prince Charlie, je pense que c'était important de le voir. Et le troisième élément, c'est la Catalogne. La Catalogne, je rappelle, hein, c'est la région la plus riche d'Espagne. C'est 18% de son PIB pour seulement 14% de ses chômeurs et 6% de sa superficie. Il y a là aussi les élections régionales qui viennent d'être provoquées par le parti autonomiste au pouvoir sortant et qui demande le pas vers l'indépendance. Là aussi, la mesure phare, c'est le refus de Madrid de renégocier le pacte fiscal qui fait que la Catalogne finance le reste du pays. Là encore, la crise et l'exacerbation des tensions peut déboucher sur une reconfiguration majeure de la carte.
On va laisser les deux petites dernières minutes pour Grégoire.
Merci Patrick Pell, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Catalogne.
Je pense que ces dossiers, il va falloir faire une émission
là-dessus, parce que c'est très ambigu.
Volontiers.
Très ambigu. Je voulais signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie deux ouvrages en complément de celui de notre invité de tout à l'heure, donc Laurent Hellinger, qui traite évidemment un petit peu du même sujet. Tout d'abord, celui de Saint-Cyrien, pour vous, Philippe Christel, parce que je sais que vous avez une affection particulière
une
pour
tendresse,
ces... une tendresse pour les Cyrard. Donc d'Olivier Hubach et de Marc de Fritsch. Ça c'est sorti il y a quelques mois. Ça s'appelle Des guerres et des hommes, idées reçues sur 25 siècles de conflits. C'est sous la forme de dictionnaire, donc d'une succession d'idées reçues. C'est très simple, très didactique. Ce sera très complémentaire donc de l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Donc un Cavalier Bleu, c'est sans doute un hussard.
J'espère.
Donc ça ne peut que inciter nos auditeurs à le parcourir, cet ouvrage. Vous retrouverez les références bien évidemment sur le blog, et c'est l'occasion aussi de lire l'édition toute récente. L'ouvrage en lui-même a déjà 20 ou 30 ans. C'est un ouvrage américain de Jess Glenn Gray qui s'appelle Au combat, réflexion sur les hommes à la guerre. C'est particulièrement intéressant parce que Jesse Glenn Gray, oui, indépendamment du fait qu'il était donc enrôlé comme soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, donc américain, était prof de philo, et la préface de son ouvrage est signée Hannah Arendt, et ça donne tout son intérêt à cet ouvrage, donc Au combat, de Jesse Glenn Gray.
Très bien, quelques secondes, je n'aurais pas pu régaler nos auditeurs de la diatribe que j'avais préparée pour fêter la redoutable fessée que le président pro-américain Saakashvili s'est pris en Géorgie, et je pense que là, pour le coup, on connaît la position russe. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Merci à vous, Philippe Frézel. C'est vrai qu'on aurait pu en parler, mais ces sujets,
on est censuré
dans des émissions.
Les pro-russes sont censurés.
On attendra la prochaine guerre entre la Russie et la Géorgie. Ça ne sera tardé.
Pourquoi pas?
C'est le sujet d'aujourd'hui.
Ce sera une correction.
Merci à vous, Grégoire Gambier. Merci à vous, Philippe Christel. On n'aura pas vu Lucien Valdès. Il devait passer. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pouvez retrouver notre émission sur le site de Radio Courtoisie ou sur lavieilleeurope.fr. Pour la réécouter, vous pouvez nous réécouter jeudi soir à la même heure. Bonne soirée sur Radio Courtoisie.